Bien, bonjour à toutes et à tous. Puis je ne peux pas m'empêcher de dire salut Caroline. Je suis content de te voir et de te savoir parmi nous. Et puis je vois aussi que, ben voilà, une nouvelle présidente en herbe et future participante active au culte. Voilà, c'est bien. C'est l'église du Seigneur qui avance. Voilà. Et qui se trouve, qui se retrouve. Qui s'unit, qui se réunit, voilà, pour le louer autour de son nom, hein, parce que nous sommes là pour parler de lui. On n'est pas là pour parler de nous. On est là pour parler de notre Dieu, de ce qu'il a fait, de tout ce qu'il représente pour nous dans notre vie de chaque jour. Et aujourd'hui, un nouvel épisode, si je puis dire, parce que la dernière fois, on avait vu par rapport à l'autorité, souvenez-vous. Et là, on retrouve à nouveau... La même équipe. Voilà. Jésus est à nouveau interrogé par les pharisiens. On en choisit quelques-uns, d'autres, et puis on met d'autres personnes. Et puis, alors là, c'est quand même à souligner, c'est que, au niveau de l'approche, moi, je suis admiratif. Là, j'avoue que, moi, je dis bravo. Bravo, les pharisiens et les quelques hérodiens qui viennent voir Jésus. Moi, dans ma version, c'est marqué, ils s'adressent à Jésus et lui disent « Maître ». Voilà, « Maître ». « Nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Dans ta version, il est parlé de rang social. Et là, c'est carrément l'apparence. Donc, c'est la personne qui est en face de moi, quel que soit son rang social, mais quelle que soit sa culture, sa façon de penser, ainsi de suite. La personne, tout ce qu'elle représente, la personne. Et ils ajoutent, donc jusque-là, ils sont dans la vérité, c'est fabuleux. Et ils ajoutent, tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'ont-il appris de toute cette vérité, de toute cette substance de Jésus? Réponds-nous par oui ou non. Donc déjà, on lui pose une question fermée. Hein. Dans cette façon de présenter la chose, si je te pose la question, est-ce que tu vas bien? Oui ou non? On va répondre oui ou on va répondre non. La personne qui te pose la question n'a peut-être pas forcément envie de savoir pourquoi tu vas bien ou pourquoi tu ne vas pas bien? Ça va? Ok. Suivant. Un petit peu une formule de politesse. C'est vrai que malheureusement, on a tendance à l'utiliser un petit peu dans le mode raccourci. Et ça serait bien de dire alors. Voilà. Essayez d'en savoir un peu plus. Alors, relevons cette fois-ci, on va voir rendre à César d'abord, en premier temps. Relevons cette fois-ci l'approche flatteuse, en version pommade. Hein, la flatterie des pharisiens. Ils affirment que Jésus ne regarde pas l'apparence de la personne, donc, sous-entendu, Jésus va regarder directement le fond de ta pensée. Comme on dit, Jésus c'est le meilleur des psys, parce que lui, il y a rien ne peut parasiter ce qu'il va voir au fond de toi. Enfin, excusez-moi, je pointe du doigt, mais ça, il n'y a aucun caractère personnel. Hein. Voilà, c'est pour montrer que, hop, voilà, il pénètre, hein, comme... Il est dit de la parole de Dieu que c'est une épée à double tranchant. Hein. Elle fend dans les deux sens. Hein. Elle fend tout ce qui se trouve. Rien ne résiste. Donc là, Jésus, il sait ce qui les anime, en fait. Il regarde dans les pensées, derrière les apparences et derrière les paroles. Parce que vous savez très bien que les paroles, ô combien elles peuvent être flatteuses, mais trompeuses. La question peut sembler complexe, hein, néanmoins, hein, si on ne s'arrête qu'à la question. Hein. Payer ou non l'impôt de l'occupant romain? Eh bien, pourtant, Jésus va y répondre clairement. Il va y répondre clairement, on va voir ça. Déjà, qui est César? Alors, César, c'est un titre impérial à part entière. Hein. C'est limite si on ne disait pas Dieu. Là, c'est César. Quand on disait César, la terre tremblait. Ça a été quand même une domination romaine quasiment mondiale. Hein. Et le César du temps de Jésus, parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, qui se sont tous appelés César, mais voilà, c'était un peu le nom et puis le prénom, enfin le titre et puis le nom derrière, il s'appelait Tibère. Voilà. César Tibère du temps de Jésus. Mais Jésus n'est pas venu chasser l'envahisseur, ni pour abolir les devoirs des citoyens envers l'autorité. À la crucifixion, on pensait que Jésus allait, tata, le héros qui est arrivé et qui va pulvériser l'occupant. Ben non, rien de cela s'est passé. Il n'était pas venu pour cela. La question posée appelle donc une réponse ferme, oui ou non. On ne te demande pas des explications, on veut juste savoir si oui ou non. Réponds-nous clairement, oui ou non. C'est vrai que c'est la façon la plus rapide d'avoir une réponse à une question. Est-ce que c'est cher? Oui, non. Est-ce que c'est beau? Oui, non. Alors, deux cas de figure, bien sûr. Oui, non. D'abord, le non. Alors, si Jésus avait dit non, sous-entendu non, ne payez pas l'impôt à César. Ah! Sacrilège. Là, ils avaient une occasion rêvée et idéale de le dénoncer au gouvernement romain en disant « Lui, c'est un traître. Il prône la rébellion. Ça mérite le châtiment. » Donc là, on se lave les mains, on veut se débarrasser de Jésus, on fait faire le boulot par quelqu'un d'autre. Et dans l'autre sens, s'ils avaient répondu oui, et bien là aussi, ils avaient une autre opportunité, c'est de détruire l'influence de Jésus parmi le peuple. Pourquoi? Parce que le peuple haïssait les Romains, forcément, c'était les envahisseurs, et ils haïssaient les taxes, les impôts. Ah, chose mou qui fâche. Dans Romains chapitre 13, versets 1, 2, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. » Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu, mises en place. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. La parole de Dieu est claire et la position de Dieu est claire par rapport aux autorités. Peut-être que déjà vous êtes en train de vous poser des questions, mais revenons à notre sujet, restez concentrés, et puis vous aurez toute l'occasion de vous poser des questions après. César et Dieu ne peuvent pas être comparés, chers frères et sœurs, ni mis au même niveau de réflexion et de considération. Pas aussi facilement et aussi simplement que cela. Pas sur un oui, pas sur un non. Les autorités viennent de Dieu et ne peuvent aller à son encontre, puisqu'elles viennent de Dieu, ni nous faire accepter des choses contre la volonté de Dieu. Demain, je ne me prosternerai pas devant un roi, même si c'est voté au Sénat par quelque président que ça soit. Je me prosternerai uniquement devant mon Dieu. Souvenons-nous de l'exemple de Daniel. Daniel, il était très haut placé, mais il était juif. Il faisait sa prière et se prosternait devant son Dieu. Et puis le roi, influencé, conduit, hein, vous savez, il y a des têtes pensantes qui soufflent des idées. Il trouvait que c'était une bonne idée que l'on se prosterne devant moi. Voilà, c'est comme si moi, là, Jean-Michel, devant vous, je vous disais, prosternez-vous devant moi. Non, rassurez-vous, je ne vais pas le faire. Hein. Daniel ne s'est pas prosterné. Jésus nous encourage et nous exhorte à respecter l'autorité, même si cela nous coûte, mais pas dans l'exemple que je viens de vous dire. Je ne suis pas juge des autorités, mais respectueux, et puis respectueuse pour les dames, et obéissant. Demain, un exemple concret, la limitation de vitesse va passer de 90 à 80 sur les routes nationales sans séparation. Voilà, c'est la présentation. Eh bien, je vais rouler à 80. Je vais respecter l'autorité. Même si je peux dire que voilà, je ne suis pas d'accord, ça ne me convient pas, c'est inadapté, c'est injuste, je vais encore perdre du temps sur la route. Oui, Dieu peut entendre toutes ces explications, mais nous devons respecter l'autorité. Nous devons payer nos impôts. Et pas essayer de trouver une manière détournée de ne pas payer d'impôts. Jésus va encore et toujours plus loin. Dans les relations que nous pouvons avoir avec les autres, Jésus bouscule nos règles, nos limites, nos attitudes, nos convictions. Dans Matthieu, chapitre 5, versets 40-42, Jésus va plus loin. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Donne-lui plus que ce qu'il ne te demande. Mais ça va pas, non? Et pourquoi je ferais ça? Dieu nous donne un exemple. Si quelqu'un te force à faire, inquiète, si quelqu'un te force à un mille, un semi-marathon, bah, fais un marathon entier avec lui. Il faut être en forme. Hein. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Dans certains pays, notamment en France, l'argent c'est tabou. On ne parle pas d'argent. Combien tu gagnes? Mon Dieu, combien tu payes d'impôts? Dans certains pays, c'est complètement... C'est... Oui, puis enfin, on ne va pas débattre là-dessus, hein, mais il n'y a pas de mystère. Voilà. Rendre à César. Maintenant, rendre nos biens à Dieu. Dans certaines assemblées, ça commencerait à gronder. Parce qu'il y a matière à réflexion. Je ne dis pas gronder, c'est négatif, hein, attention. 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 7 à 15. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Eh oui. Que tu donnes un centime, que tu donnes 1 000 euros, Dieu veut que tu le donnes avec joie. Ce n'est pas la valeur ni le montant de ce que vous donnez qui plaît à Dieu. Et surtout pas lui dire tiens, je te donne ça, prends. T'as vu, Seigneur, je t'ai donné quelque chose. Non, pas du tout. Là, il vaut mieux que vous le gardiez, c'est une offense à Dieu. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards. Les superlatifs, pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Mais qu'est-ce que l'on peut rajouter à cela ? C'est de la libéralité de votre cœur que Dieu vous remplira de sa surabondance. Tout et absolument tout me vient de Dieu. Alors, est-ce que nous sommes prêts à la mettre en pratique facilement et spontanément ? Ce que Dieu nous donne et nous permet de posséder ou nous permet de posséder, c'est à utiliser avec précaution et bon escient, en en prenant soin comme si cela ne nous appartenait pas. Si l'on me prête quelque chose, ne vais-je pas prendre les plus grandes précautions pour l'utiliser, le manipuler, désirant la plus propre, plus beau, plus fonctionnelle limite qu'avant. Considérant que Dieu me donne ce que j'ai, j'en suis le gérant et non le propriétaire. Alors, quelle est ma façon de gérer ce que j'ai ? Question. Pourquoi cela semble-t-il difficile de donner ? Je ne parle même pas d'argent, là. De prêter. Par exemple, ma voiture. Bon, de l'argent. Un bien quelconque, quelque chose de matériel, mon manteau, ma Bible, ma maison. En plus, je dis ma. Du genre, j'ai réussi. Non, je reviens juste à la phrase en arrière. Donc, par exemple, ma voiture, de l'argent, du matériel. Tout cela est-ce uniquement pour moi, pour ma propre existence, ma subsistance? Et j'irai même au-delà, ma jouissance, c'est à moi. Mon confort, je suis bien, alors, et je le prête à personne. Comme un enfant avec son doudou. Mon doudou, je le prête à personne, c'est mon doudou. Pour mon assurance de richesse, pour ma notoriété. Voyons, on va loin dans la réflexion. Mais il faut aller loin. Il faut savoir se bousculer dans la vie chrétienne. Oui, mais moi j'ai réussi dans mes affaires. Ce sont mes efforts. Oui, et qui est-ce qui te permet de te lever le matin ? Ton réveil, j'ai oublié. Ben non. Dieu te fait lever le matin. C'est pas le hasard. Tu sais pas ce qui peut se passer dans la nuit. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu respires sans savoir pourquoi, par automatisme, et puis ça peut s'arrêter. Ce que j'ai gagné à la sueur de mon front, je l'ai gagné à la sueur de mon front. Mon front que j'ai créé. Ah non, c'est mon front que Dieu a créé. Nous oublions trop facilement que ce que je possède ne vient pas de moi. Luc chapitre 12, verset 13. Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus, « Maître !» Ah, ils aiment bien appeler Jésus maître. Mais après, quand le maître dit quelque chose, ils obéissent pas forcément. « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Ah, fameux héritage. Jésus lui répondit, « qui m'a établi pour être juge ?» ou pour faire vos partages. Puis, s'adressant à la foule, il dit, « Gardez-vous bien de toute âpreté au gain. Je veux ma part. Car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. » Et il leur dit cette parabole, « Il y avait un homme riche, tellement riche, dont les terres avaient beaucoup rapporté, tellement rapporté, on dirait qu'il ne savait même plus
Quoi en faire?
Quand je regarde des fois certaines émissions, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils ont tellement d'argent, ils ne savent pas comment le dépenser. Ils nous montrent des photos, on voit un tel, il a un avion, c'est rempli d'or à l'intérieur, c'est couvert d'or. Un bateau couvert d'or, des robinets en or. J'aimerais bien que sa nourriture et son eau deviennent de l'or et on verra ce qu'il mangera et ce qu'il boira avec. Et alors cet homme riche dans la parabole dit, que vais-je faire? Je ne sais pas où mettre ma récolte. Et puis il se dit, voilà ce que je vais faire, je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y entasserai tout ce que je possède. Waouh! Quand on va voir cela, tous les gens aux alentours, ils vont dire, oh, c'est presque Dieu. Tellement il a fait des grandes choses. Alors je me dirai à moi-même, te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence, vas-y, fais la fête. Sans compter. Mais Dieu lui dit, coucou, tu es fou. Cette nuit même, je vais te redemander ta vie. Et demain, qu'est-ce qui va rester? Rien. Et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. C'est tellement vrai. Encore une fois, nous n'emporterons rien avec nous. Ni 50 milliards, ni 1 euro. On n'emmènera rien. Et qu'est-ce que nous aurons fait de ces 50 milliards et de ces 1 euro? Pour moi, ma petite vie, mon petit confort. Et concernant la dîme, l'offrande, un sujet qui semble ne pas vouloir être abordé. Ou aborder, mais juste parce que c'est dans la parole de Dieu et qu'il faut bien, à un moment donné, parler de cela. Dans Luc, au chapitre 11, verset 42, Jésus dit ceci. « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, des herbes, de tout. Mais que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. » Sans omettre les autres choses. Encore une fois, Dieu, mais excusez-moi l'expression, mais il s'en fout que vous lui apportez 100 000 euros. Si ça ne vient pas de votre cœur en lui disant, Seigneur, voilà mon offrande. Voilà aujourd'hui ce que je veux t'apporter. Ou voilà, Seigneur, j'ai quelque chose dont je ne me sers pas, je vais le mettre au service de quelqu'un, ou quelque chose que je me sers, mais je vais le mettre au service de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a besoin de cela? Eh bien, moi, je veux aller plus loin. Et tant qu'on y est, on va aller jusqu'au bout. Je vais prendre le sujet à contre-pied, le sujet à l'inverse. La dîme, c'est 10%. Hein, ce que l'on redonne à Dieu. Eh bien, moi, je vous propose que vous n'ayez que 10%. Et Dieu garde 90%. Donc, 10% de votre salaire, 10% de votre bagnole, 10% de vêtements, 10% de nourriture, et une maison, 10% de votre maison. Voilà. Si vous avez un 90 mètres carrés, vous allez vous retrouver dans une petite chambre. Ça fait sourire. Ça fait sourire. Mais Dieu se dit, regarde. Dieu se dit, regarde ce que je lui permets d'avoir. Dieu ne regarde pas que les riches, hein, rassurez-vous, il nous regarde tous. Regarde ce que je lui permets d'avoir. Si je lui en donnais que 10%, qu'est-ce qu'il ferait? Il se suicide. Il dit, c'est pas possible, je suis pas bête. Seigneur, je ne peux pas vivre. Je gagne 50 euros par mois. Je vis dans 9 mètres carrés. Je peux juste m'acheter du pain. Je ne peux pas payer mon électricité, donc je n'ai pas de chauffage. Bon, ouais, non, mais voilà, imaginons. Imaginons ce que Dieu pourrait ressentir. Lui, il a une faculté, il a une intelligence, ça lui permet de gagner beaucoup d'argent, et qu'est-ce qu'il en fait ? C'est pour le cramer. Voilà. Prend les billets, il met le feu. Ou lui, il a un talent, il a tel talent, il a telle opportunité, et qu'est-ce qu'il en fait ? C'est pour lui. Il pense même pas à moi. Et enfin, rendre nos vies à Dieu, c'est le dernier chapitre. Éphésiens chapitre 5, verset 1er, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Et puis en effet, Romains chapitre 14, verset 7, « En effet, nul ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. » Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soyons donc que nous vivions, que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Psaume 11, verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Je vais conclure, j'avais encore un petit passage, mais je vous le lirai la prochaine fois. Je vais vous lire 1 Chronique 29, verset 11, parce que j'aimerais que l'on passe quelques instants dans la réflexion silencieuse. 1 Chronique 29, verset 11, « À toi l'Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Rien n'est jamais perdu pour Dieu. » Pas de confusion dans ce que j'ai partagé avec vous. Dieu ne demande pas de rentrer chez vous et puis de rester dehors, nu sur le bord de la porte, en disant « Seigneur, tout est à toi. » Basculons pas dans les extrêmes. Le Seigneur veut que nous ayons un confort, un travail, de l'argent. Mais encore une fois, sachons rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je rends la parole.